Allô.
Fréquence Terre.
C'est notre débat sur le climat, la météo qui commence. Bon, on ne va pas parler forcément de débat, mais en tous les cas, on va avoir les explications de Jean Jouzel, climatologue, glaciologue, qui est à nos côtés, et les explications d'Emmanuel Bocry, directeur de la communication, c'est ça, de Météo France ?
Pas tout à fait, directeur de l'unité média.
De l'unité... Ah d'accord. C'est
bon, prestations à destination des médias nationaux, télévision, journaux, etc.
Voilà, merci pour cette précision. Et avec moi pour animer ce débat, Cyril Souche de cdurable.info.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va commencer, Jean Jouzel, peut-être par vous. Vous devez partir un petit peu plus tôt, donc on va tout de suite vous agresser. J'aimerais qu'on refasse un petit point sur le climat. Quand on parle de climat, c'est un sujet de préoccupation majeure depuis quelques années pour les Français. Beaucoup essayent d'occulter ce problème. En se disant je ne veux pas être responsable de ce réchauffement climatique qu'on m'annonce, je continue mes habitudes, j'ai un gros 4x4, ça m'a coûté cher, ça m'a permis de montrer mon statut social, il est hors de question que je l'abandonne parce que je ne suis pas responsable du réchauffement climatique. Alors ça, c'est une des réflexions que j'ai entendues. Je vois Emmanuel Bocry opiner du chef, mais si, je l'ai entendu. Je ne veux pas être responsable du réchauffement climatique. En 2006, c'est comme ça que la France prend conscience, et le monde peut-être prend conscience du réchauffement climatique. Al Gore annonce le réchauffement climatique, et peut-être même pire, que c'est l'homme qui en est la cause. Et il pose un ultimatum à l'humanité et lui donne 15 ans à peu près, pour réduire les gaz à effet de serre. On n'avait pas encore entendu parler des gaz à effet de serre réellement. On avait parlé un petit peu du trou dans la couche d'ozone, sans s'étaler vraiment dessus. C'est donc à cette époque-là que commence la prise de conscience du réchauffement climatique, qu'on a ce mot de global warming qui a été traduit après. On a pris connaissance à la même époque du travail du GIEC, dont vous faites partie. Depuis quand les hommes étudient-ils le climat ?
Oui, bonjour Frédéric Bénaud, bonjour Cyril Souche, bonjour Emmanuel. Oui, c'est un plaisir d'être ici. Alors de façon anecdotique quand même, si tout à fait vrai que Al Gore a joué un rôle important, mais ce qu'il a dit, il l'a dit avant tout à partir du rapport du GIEC. C'est bien le rapport du GIEC, c'est bien sûr, disons justement, le rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a une mission extrêmement bien définie. Il s'agit simplement pour nous, puisque enfin, moi-même j'y suis impliqué, de faire un état des lieux critique sur tout ce qui touche au rôle potentiel des activités humaines sur le réchauffement climatique. Et le quatrième rapport est sorti en 2007, était bien à partir de les résultats du quatrième rapport, dont je vous dire quelques mots, que Al Gore a construit son film largement, et puis pour ce qui concerne le GIEC, on a aussi le plaisir de partager le prix Nobel avec Al Gore, enfin voilà, d'un autre côté, de façon collective. C'est vrai que c'est quand même, je crois que le quatrième rapport du GIEC a été une étape marquante, et je pense effectivement, Frédéric, que du point de vue grand public, c'est peut-être une véritable émergence de ce problème de réchauffement global. Alors, je ne vais pas être trop long, mais je crois qu'il est important de rapporter...
Il existe depuis combien de temps, le GIEC ?
Le GIEC, depuis 1988, c'était notre quatrième rapport, mais c'est vrai que c'est la première fois, et c'est ce qui a marqué, que nous disons de façon claire, pour arriver tout de suite à votre question, que... disons, dans notre esprit, l'esprit de la communauté scientifique, et avec beaucoup d'arguments, enfin c'est vraiment bien argumenté, que l'essentiel, enfin il y a plus de 9 chances sur 10, on est, disons, de façon presque certaine, l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années est déjà lié aux activités humaines. C'est ça le diagnostic important du quatrième rapport du GIEC, mais il s'appuie sur des certitudes. Il s'appuie sur deux certitudes. La première, c'est que nous modifions la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre, gaz carbonique, méthane, oxyde d'azote, d'autres. Ce sont vraiment nos activités. Ça, personne je crois que c'est quelque chose qui est bien admis. À chaque fois qu'on brûle du charbon, du pétrole, du gaz naturel ou qu'on détruit une forêt, eh bien, on met du gaz carbonique dans l'atmosphère. Le méthane, c'est lié à disons, à la fois à la, au, au Marais, mais aux pratiques agricoles.
Ça, voilà.
Ça,
ça, revient...
ça, c'est une première certitude.
Oui. Est-ce que c'est vous? Comment est-il composé ce comité d'experts, hein? Vous étudiez tous les gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Votre métier, c'est quoi? C'est glaciologue à la base, c'est ça? Non,
oui, alors ma propre expertise, donc si je suis effectivement impliqué, c'est moi-même, j'ai toujours été chercheur dans ce domaine de l'évolution du climat. Et plus précisément, moi, j'ai consacré toute ma carrière scientifique, puisque je suis quand même presque à la fin, mais je travaille toujours, hein, je suis toujours très impliqué à l'étude. Est-ce qu'on peut apprendre des grands forages du Groenland et de l'Antarctique vis-à-vis des variations passées du climat? Et on comprend bien que pour vraiment appréhender le fonctionnement du système climatique, pour voir comment ça fonctionne, on ne peut pas simplement regarder sur une centaine d'années. Hein, il faut avoir cette vision, et bien cette vision, la vision du passé nous amène à mieux comprendre comment ça fonctionne, le système climatique dans l'ensemble, et aussi, moi, c'est effectivement ce qui m'a amené à m'intéresser au climat du futur. Donc il y a une vraie continuité entre le climat du passé et le climat du futur.
Moi, je suis ravi d'apprendre qu'effectivement, ce quatrième rapport établit une bonne fois pour toutes l'impact de l'origine des activités humaines sur les changements climatiques. Cela dit, médiatiquement, c'est remis en cause par Claude Allègre avec son livre « L'imposture climatique » ou « La fausse écologie », mais aussi par Benoît Hariteau et le mythe climatique. Et ça entretient le doute dans l'esprit des Français. Qu'est-ce que vous répondez à ces doutes et ces mises en cause?
Donc d'abord, la première réponse, c'est que, disons, tout le monde a le droit de s'exprimer, et c'est tout à fait, bon, disons, le doute est légitime, au contraire, je pense que c'est justement un problème tellement important que c'est tout à fait légitime qu'on soit interrogé sur les conclusions du rapport du GIEC, plus généralement sur les conclusions de la communauté scientifique. Alors, on répond point par point. Il y a d'ailleurs beaucoup de livres aussi qui l'ont fait. On peut quand même citer celui de Stéphane Foucard ou de Sylvestre Huet qui ont repris point par point l'argumentation de Claude Allègre ou de Hariteau. Je vais faire simple. Le point principal d'ancrage de cette polémique en France, c'est, des climato-sceptiques, je dirais, puisqu'on le traite comme ça. Être sceptique, c'est bien, c'est pas le problème d'être sceptique, hein, c'est pas un reproche, mais en tout cas, leur argumentation principale, c'est que le réchauffement actuel serait dû plus à l'activité solaire, à des causes naturelles et non pas à des causes humaines, c'est ça, puisqu'il y a deux possibilités, ou bien l'homme est responsable, ou bien c'est d'origine naturelle, ou bien c'est l'homme qui est responsable. Évidemment, la réalité, c'est qu'il y a les causes naturelles existent toujours, mais se superposent sur ces causes naturelles.
C'est ça, l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre.
Hein, ça se cumule même.
Ça se cumule, oui, voilà. Alors, l'argumentation pour le solaire, puisque c'est le point principal de discussion, eh bien, c'est que quand on regarde l'activité solaire sur les 50 dernières années, d'abord, elle n'a pas augmenté. Il y a un cycle de 11 ans, elle n'a pas augmenté. Ensuite, il faut bien voir que la variation de l'activité solaire, c'est 10 fois moins important que l'augmentation de l'effet de serre en termes d'énergie. Donc, il y a vraiment ce facteur 10 qui est important. Et puis, si c'était l'activité solaire, eh bien, on s'attendrait à ce qu'à la fois les basses couches de l'atmosphère et puis la haute atmosphère se réchauffent. Et c'est pas ce qu'on observe. On observe un refroidissement de la haute atmosphère. Et c'est ce à quoi on s'attend dans le cas de l'effet de serre, puisque la caractéristique de l'effet de serre, c'est de piéger de la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Et cette chaleur n'arrive pas dans les hautes couches de l'atmosphère. Donc, je veux simplement dire que le GIEC, il y a 80 pages sur ces aspects d'attribution du réchauffement climatique. On n'évite pas du tout cette discussion. Mais si nous sommes arrivés à ce diagnostic, c'est qu'il y a, les arguments scientifiques sont là. Et en aucun cas, des Claude Allègre ou Vincent Courtillon n'ont apporté d'éléments qui contredisent ce diagnostic du GIEC.
Alors justement, Vincent Courtillot est géophysicien et il annonçait lors du sommet de Copenhague que c'était l'homme le responsable.
Le GIEC a été extrêmement clair, ce réchauffement à l'échelle globale, il est sans équivoque. Il est aussi, si on regarde les 50 dernières années, sans précédent au cours au moins des 1000 dernières années. Encore une fois, si on parle à l'échelle globale, et donc là, les choses sont très claires, le réchauffement, il est bien en route. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière ce réchauffement, en ce qui concerne les causes de ce réchauffement, le GIEC est également très clair sur le fait que le facteur principal à cette échelle de temps-ci, à l'échelle des 50 dernières années, dernières années, échelle du siècle, ce sont bien les activités humaines et pas des facteurs naturels dont tous les aspects ont également été étudiés de près.
Ah voilà, donc pour lui c'est...
Frédéric, ce n'est pas Vincent Courtillot qui intervenait, mais Jean-Pascal Van Nispersel qui est vice-président du GIEC. Donc,
il a été identifié comme
Vincent Courtillot. Il a été mal identifié.
Bon voilà, merci pour cette rectification. Donc lui il confirme, hein, donc il abonde de toute façon, oui. Ça va dans le même sens. Moi je cherchais en fait à savoir qui pouvait nous montrer quels étaient les mécanismes en même temps, parce que le GIEC contient des géophysiciens, c'est-à-dire capables de nous dire si le cycle solaire a une incidence sur le réchauffement climatique. Je dis, qui étudie ces cycles-là est capable de nous dire si c'est naturel, si c'est un réchauffement naturel. Alors, il y en a même qui nous ont parlé après d'ère glaciaire qui allait arriver juste après. Il faut qu'on sache comment on se constitue là-dedans. Quand est-ce que vous, en tant que glaciologue, là je fais appel à vous en tant que glaciologue, quand est-ce que vous vous êtes aperçu d'une anomalie ou de cycle?
Non, les grands cycles glaciaires-interglaciaires pourraient être connus. Hein, il y a 20 000 ans, on était dans une période glaciaire. Le climat était complètement différent du climat actuel. Ce sont des découvertes plus du 19e siècle. Hein, des découvertes elles-mêmes, des grands cycles, c'est ce qu'on a tous appris à l'école. Hein, il y a eu des grandes périodes glaciaires. L'explication en a été fournie dans la première partie du 20e siècle par... en particulier par quelqu'un qui s'appelle Milankovitch, c'est pas grave, qui a proposé qu'il y avait un lien entre ces grands cycles glaciaires interglaciaires et la position de la Terre sur son orbite. Hein, donc ça, c'est un point important. Ce qu'on a ajouté, effectivement, ça a été confirmé dans les années 70 à partir des sédiments marins. Et je crois que ce que les glaces polaires ont ajouté, c'est que ça, c'est exact, tout à fait, mais il y a un amplificateur qui est l'effet de serre, c'est-à-dire qu'on a montré que dans le passé, il y avait une relation entre gaz à effet de serre et climat, c'est-à-dire que quand en période glaciaire, il y a moins de gaz à effet de serre qu'en période chaude. Et donc, ce n'est pas l'origine des changements glaciaires interglaciaires, mais ça permet de les amplifier et de comprendre comment ça fonctionne. C'est ça le lien aussi entre climat du passé et climat du futur.
Si on regardait dans la glace aujourd'hui, dans quelques milliers d'années, à quoi ressemblerait notre couche à notre époque? Ce serait quoi? On parle de gaz carbonique.
Non, on le voit très bien. On voit très bien dans les glaces que les bulles d'air qui sont enfermées aujourd'hui ont la composition on voit cette différence. C'est justement le seul endroit où on le voit, parce qu'on n'avait pas de mesure il y a 200 ans quand le niveau n'était pas perturbé des activités humaines. On voit très bien cette montée lente mais inexorable des concentrations, des quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, des quantités de métal. On le voit dans les glaces polaires.
Alors dans le film d'Al Gore justement dont vous parliez en introduction de cette émission, il y a un passage qui est extrêmement parlant et qui a d'ailleurs fait polémique, c'est cette courbe et cette corrélation entre le nombre de particules de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère par les activités humaines et qui augmentent de façon phénoménale à partir des années 70 et la courbe d'augmentation des températures. Avec donc réchauffement climatique, d'autres parlent de changement climatique, d'autres remettent même en cause la corrélation entre cet indicateur CO2 et la modification de la température. Qu'est-ce qu'il faut croire ?
Non, le visuel d'Al Gore dans le film est effectivement très marquant. Il monte sur un escabeau qui monte et... c'est vrai que c'est plus un visuel, c'est pour montrer qu'il y a une relation dans le passé entre gaz à effet de serre et climat, et que ce gaz à effet de serre augmentant de façon importante, le climat devrait se réchauffer. Mais c'est pas la façon dont on le fait, mais là, Emmanuel va nous raconter comment on le fait, mais on le fait à partir de modèles climatiques. Disons que le futur n'est pas simplement un simple prolongement du passé, mais on travaille justement pour comprendre les mécanismes et pour regarder vers le futur. La seule façon, mais ça ne contredit pas ce que le visuel d'Al Gore, effectivement nous allons avoir un réchauffement important, la seule façon c'est de s'appuyer sur des modèles climatiques, de comprendre comment ça fonctionne et à partir de là de se projeter dans le futur.
Alors justement, Emmanuel Bocry, quand on fait ce saut de la climatologie à la météorologie, c'est-à-dire l'impact de ces changements du climat sur la météo au quotidien, est-ce qu'on mesure ça? Est-ce qu'on prend en compte ça? Est-ce qu'on intègre ça? Comment ça se traduit sur la météo au quotidien et
dans... Alors, je rappelle deux, trois petits points d'abord. En météo, il y a trois temps pour nous. Il y a l'observation, c'est à l'instant donné, on observe ce qui se passe. Il y a la prévision, c'est le futur, ce qu'on prévoit. Et il y a la climatologie, c'est le passé, c'est la moyenne en général de ce qui se passe du temps. En météorologie, là, en prévision de tous les jours, on ne tient pas compte du changement climatique. Ça va rentrer indirectement dans tous les paramètres qu'on va avoir. On n'en tient pas compte directement. Par contre, néanmoins, moi, je sais que j'ai pris une grande claque dans la figure en passage à l'an 2000. Non pas parce que c'était passage à l'an 2000, c'est parce que on a refait toute notre climatologie sur la France. On avait 100 ans de données. Et c'était très intéressant. Le changement climatique, j'en entendais parler par mes collègues spécialistes à Météo France. Mais bon, c'était quelque chose, comme je dis, on peut le comprendre, mais il faut un choc pour vraiment le percevoir.
Vous avez mis et du temps à Météo France à prendre conscience de, ou à assimiler ou alors à le dire. Il y a encore trois ans, Météo France était réfractaire à utiliser le terme de réchauffement climatique.
On est toujours réfractaire au réchauffement climatique.
Alors qu'est-ce qu'on
parle
de
changement climatique ?
Alors changement, dérèglement, réchauffement.
Non. Alors dérèglement, si vous le souhaitez, changement climatique. À mon avis, est plus précis parce que quand on regarde les projections qui sont faites sur le changement climatique, on voit que globalement, effectivement, c'est un réchauffement sur la planète. Ce réchauffement n'est pas le même partout et dans certains endroits, on aura peut-être un léger refroidissement, plus ou moins momentané. Donc, je voulais revenir simplement sur l'histoire, sur la météorologie. Moi, en 2000, on a constaté 100 ans de données Météo France, d'observation, et la première réaction, ça a été de me dire, bon, s'il y a changement climatique, on va bien voir quelque chose sur les villes. Donc, premier truc, j'ai pris Paris. Crac, j'ai vu la température qui montait. Je me suis dit, bon, Paris, oui, ça s'est urbanisé, c'est logique.
Qui monte de combien ?
Oh, c'est de l'ordre d'à peu près d'un degré. Et je me suis regardé à peu près toutes les grandes stations de France, et tout monte. Plus ou moins vite, mais tout monte. Sur 100 ans, on voit à peu près un degré. Alors, c'est un peu plus d'un degré pour les températures minimales. Les maximales montent un petit peu moins. Et ça dépend entre le nord et le sud, il y a des petites variantes. Mais ça, on l'observe.
Ce qui est important pour mesurer ce que ça représente, Jean Jouzel, vous devez le savoir mieux que nous, c'est quelle est la différence de température moyenne globale entre une période justement glaciaire ou interglaciaire ? C'est de l'ordre de combien de degrés ?
C'est de l'ordre en température moyenne, c'est d'entre 5 et 6 degrés.
Donc entre 5 et 6 degrés d'écart, on passe d'une période glaciaire à
plus
une période...
dans nos régions, plus dans nos régions, moins dans les régions tropicales.
Donc on est à 1/5 en 100 ans.
Oui, mais attendez, c'est ce qu'on observe. Sur des villes. Je précise bien, c'est ce qu'on observe en France, ce qui n'est pas forcément partout la même chose.
C'est une hausse progressive ou c'est
alors quand on regarde les graphiques,
30 dernières années.
C'est difficile sur les villes, c'est quand même difficile à montrer. On voit qu'en réalité, ça monte, ça descend. Les graphiques font du yo-yo, oui. Mais que la tendance globale monte. Et on gagne à peu près un degré. En France, c'est ce qu'on a gagné à peu près, en moyenne.
Alors, Al Gore, lui, annonçait carrément, si on ne rectifiait pas le tir, des hausses de température de 2 à 4, voire plus. On est parti pour ça, là. Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, est-ce qu'on est parti pour ça ? On peut regarder un peu vers le futur. Alors, je crois qu'on comprendra bien que le réchauffement vers lequel on va dépend de notre comportement. Une fois qu'on a constaté quand même que l'effet de serre va jouer un rôle climatique, c'est quand même simple la base. Hein. Disons qu'on accumule, en augmentant les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on accumule de la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Et quand vous chauffez plus, en gros, la tendance du milieu, c'est que sa température augmente. Hein. Sauf s'il y a des mécanismes de compensation, malheureusement, il n'y en a pas. Il y a plus des mécanismes d'amplification. Donc on peut s'attendre, effectivement, les chiffres cités par Al Gore sont ceux du GIEC, on peut avoir des réchauffements d'autant plus importants que l'on va émettre plus de gaz à effet de serre et qui pourraient atteindre en moyenne globale au moins 4 degrés à échéance de la fin du siècle, plus après si on continue. Mais ça, c'est quelque chose dont j'espère qu'on n'atteindra pas. C'est énorme, 4 degrés en un siècle. Hein, c'est un peu moins qu'un changement glaciaire interglaciaire. Lui, il a quand même mis des milliers d'années. Donc, c'est énorme.
Et c'est le scénario quoi, le plus pessimiste, médian,
optimiste ? Oui, le scénario en moyenne globale, le scénario les plus émetteurs donne un réchauffement moyen global de 4 degrés en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a certains modèles qui vont jusqu'à 6. Hein, c'est entre 2 et 6. Si vous prenez le scénario qui émet le plus, on ne fait pas beaucoup d'efforts, un peu quand même. Les réchauffements moyens, c'est entre 2 et 4 degrés, avec une moyenne des réchauffements moyens de 4 degrés. Et donc, c'est là qu'on dit, il y a certains modèles qui vont jusqu'à 6, mais ne soyons pas, disons, n'allons pas au-delà. Prenons plutôt les valeurs moyennes de ces modèles. Mais c'est déjà énorme, c'est pas la peine. Et alors, tout le monde admet qu'on ne peut pas faire ça.
6 degrés, c'est l'inconnu absolu pour l'humanité en si peu de temps.
Oui, c'est et tout le monde a compris, puisque tous les pays de la planète ont signé la Convention climat qui dit que tout doit être fait pour stabiliser l'effet de serre, pour stabiliser notre climat. Et une des avancées de Copenhague puis de Cancun, qui est quand même une avancée importante, c'est que la Convention climat signée en 92 ne disait absolument pas ce qui la limite qu'on ne devait pas dépasser. Et maintenant, on a, grâce aux conférences de Copenhague-Cancun, et signées par tous les pays de la planète, sauf la Bolivie, en fait, hein, que tout doit être fait pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés. Je suis navré pour Emmanuel. Le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés par rapport au climat qu'on avait il y a 200 ans, c'est-à-dire 1,5 degré par rapport à l'actuel. Et ça, c'est important, parce qu'au-delà de 2 degrés, il y a quand même de bonnes raisons. C'est que notre capacité d'adaptation, on a bien sûr une capacité d'adaptation, au bout d'un moment, si on joue trop avec le feu, eh bien, elle va diminuer, sinon disparaître.
Donc, on a parlé hier avec Fabrice Nicolino de l'interdépendance des écosystèmes, et le problème, c'est qu'il arrive un niveau d'augmentation de température qui peut provoquer un emballement, parce qu'il y a moins de stockage de CO2 quand la température augmente, il y a les océans qui vont dégager beaucoup plus, il y a des tourbières qui peuvent dégager du méthane, et donc rajouter des...
Les calottes glaciaires qui fondent.
Voilà.
Donc, justement, oui, c'est un peu la suite. C'est Al Gore l'annonçait, il disait, on va aller de catastrophe en catastrophe. Vous confirmez ces scénarios catastrophiques? C'est-à-dire que je lisais une page dans Science et Vie, vous allez me dire si c'est à peu près exact, qui annonçait qu'au courant de ces 10 dernières années, on avait pratiquement multiplié par 2, voire par 9, les catastrophes climatiques, donc les grandes inondations, les tempêtes, les cyclones, tout ça commence à s'emballer. Est-ce que c'est un vrai constat? Météo-France, alors.
Alors d'abord, il ne faut pas mettre à chaque fois qu'il y a une tempête, il ne faut pas dire que c'est changement climatique forcément. Hein, d'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui serait une aberration. Que les gens soient sensibles et fassent attention, oui, c'est une bonne chose. Je dirais qu'il y a un certain nombre de projections qui montrent que ce n'est pas tellement des tempêtes qui vont poser problème. Ça va être, par exemple, si on prend le cas de la France, on va modifier des cycles de l'eau. Alors, des cycles de l'eau, entendons-nous. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des endroits où on aura beaucoup plus de sécheresse en été, par exemple tout le sud de la France. La canicule, la fameuse canicule de début des années 2000, va être quelque chose, entre guillemets, d'assez classique dans une cinquantaine à une centaine d'années.
Pour vous, c'est vu, c'est déjà calculé, ça.
Dans les scénarios, si on ne fait rien du tout, on va vers ce genre
de choses. Ça, c'est quoi? C'est de la météo ou c'est du climat, ça?
Alors... disons qu'on utilise des techniques de la météo pour pouvoir faire de la projection de ce que va être le climat, ce que pourrait être le climat dans le futur. Hein. Rapidement, le principe est relativement simple. Ça se base un peu sur le même principe qu'un modèle numérique de prévision de tous les jours. On a 6 équations à 6 inconnues. On ne sait pas les résoudre. Quand je dis on, c'est tout le monde. Hein. Personne ne sait les résoudre. Néanmoins, on a une technique qui est relativement simple. C'est qu'on prend le temps qu'il fait à l'instant donné sur toute la planète et on calcule comment sera ce temps 10 minutes plus tard. On prend ce nouveau temps et on calcule 10 minutes plus tard. Et on commence autant de fois qu'on veut. Et comme ça, on fait de la prévision tous les jours. À J+1, J+2, J+3, jusqu'à 7 jours, voire 10 jours. Pour un système climatique, c'est un peu le même principe avec des constantes différentes. Au début, on n'utilisait que des modèles atmosphériques. Maintenant, on tient compte de modèles atmosphériques plus des modèles océaniques. Parce que ça, l'océan joue un rôle très important dans tout ça. Donc, ce n'est plus tout à fait de la météo. Hein. C'est du changement climatique, la prévision, c'est des scénarios, des projections de scénarios. Donc avec ce genre de choses, c'est comme ça qu'on arrive à essayer d'estimer de ce qui va se passer. Alors, par exemple, certains scénarios montrent que, par exemple, pour la France, on devrait avoir en hiver plus de pluie, hiver-automne, plus de pluie sur la façade ouest de la France, et un manque d'eau, par exemple, en été.
Alors, même façade ouest?
Non, sur la grosse partie sud de la France, on risquerait d'avoir beaucoup moins d'eau.
Donc là, vous parliez des sécheresses tout à l'heure.
Des sécheresses, des canicules, donc ça veut dire y avoir une meilleure gestion de l'eau. Ça veut dire que les arbres qui ont l'habitude d'avoir une certaine quantité d'eau chaque année vont plus les avoir, ou vont les avoir brutalement, sous forme d'orage, par exemple, très violent. Sur la façade ouest, vous allez avoir plus de pluie, une grosse quantité de pluie qui vont tomber. Donc, les canalisations qui ont été conçues, les évacuations d'eau, simplement, qui sont conçues en prenant 30 ans de données de climatologie pour dire, voilà ce qui tombe en moyenne, voilà le maximum, donc on fait un tuyau un peu plus gros et on est tranquille. Alors, on va avoir des problèmes, les tuyaux ne seront pas assez gros. Ça peut paraître tout bête, mais c'est des débordements, ça veut dire des gestions de villes inondées, etc. Ça veut dire aussi des végétaux qui ne seront pas habitués à avoir des telles quantités d'eau. Alors on peut se dire très rapidement, une attitude simple, c'est de dire, c'est pas grave, je planterai ce qu'il faut comme plante et ça ira. Sauf qu'un arbre, ça met entre minimum 30 ans à pousser, voire plus. La vigne, c'est dans le même tonneau, donc je vous vois mal enlever les pieds de vigne et les remonter plus au nord. Bon, il y a des choses comme ça non, mais il faut le comprendre. Ça veut dire que beaucoup on va avoir des problèmes d'agricole, on va avoir des problèmes très certainement de maladies. Du simple fait que on change tout ça. Donc il y a un certain nombre d'insectes qui vont pouvoir remonter ou vont descendre.
On va se retrouver avec le chikungunya en France.
Ça j'en sais rien, mais ça fait partie des
scénarios
qui peuvent se produire. Alors sinon, dans les scénarios, quand on regarde sur les tempêtes, par exemple, les études qu'on fait.
À quelle échéance, pardon, ces scénarios là
C'est une cinquantaine, centaine d'années, c'est des scénarios moyens. Mais si je prends par exemple les scénarios qu'on a travaillés sur les tempêtes, nous on ne voit pas au niveau du nombre de tempêtes qu'on a par exemple sur le territoire métropolitain une augmentation du nombre de tempêtes ou de leur intensité. Par contre,
leur intensité, vous dites pourtant là, j'ai l'impression que vous parlez d'intensité quand vous dites il va pleuvoir dru d'un coup, on va pas pouvoir tout éponger d'un seul coup. Non,
ne confondons pas.
Est-ce que c'est quoi j'ai l'impression que vous décrivez un concentré, non. C'est-à-dire qu'en 4 mois il va se passer de la météo d'une année.
Ce que je dis, c'est que si on regarde sur une ensemble d'une année, sur la façade ouest, en global, on aura beaucoup plus d'eau qui tombera. Je ne dis pas que l'eau va tomber de façon très brutale. Elle peut tomber un petit peu plus chaque jour. Mais la quantité globale va être plus importante. Par contre, dans le sud de la France, on aura des problèmes de sécheresse. Ça, c'est sûr. Et donc, quand il pleuvra, très certainement, des pluies plutôt intenses. Donc, en ravinant les terrains, des problèmes d'inondation brutale, etc. D'accord ? J'ai perdu le fil de mon idée.
Au niveau des médias, si vous...
Pour les tempêtes. Ce que nous, on constate, ce qu'on a observé, on n'a pas d'augmentation du nombre de tempêtes ou de leur intensité. Ça, c'est une certitude. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la médiatisation de ces tempêtes, elle a augmenté. Ça, c'est clair. Alors, on y est un petit peu pour quelque chose. On a créé la vigilance météorologique. Donc, tout le monde est au courant. Quand il y a du orange, du rouge, le plus que c'est pas forcément exactement ce qui se passe, mais il suffit que je vous dise, c'est une tempête qui ressemble à celle des deux tempêtes de 99. Et j'en comprends très, très vite que ça va être un événement majeur. Xynthia, les gens ont très bien compris ce qui allait se passer. Bon, le problème, c'est que si on finalise, par exemple, de Xynthia, on a eu quasiment pas de morts liées à la météo. Et par contre, tous les morts ont été liés au fait que des digues sont rompues, ce qui n'est pas de la météo.
Donc, les infrastructures ne sont plus adaptées au climat ou à la météo qu'il va faire.
Ça, je peux pas. Ça, c'est le politique.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, non ?
Oui, mais c'est dans le futur.
Il va tellement pleuvoir que les tuyaux seront plus assez gros.
Dans le futur, on va avoir ce genre de problème-là.
Oui, mais enfin, on est en train de le constater aujourd'hui. C'est peut-être un début. Donc,
Xynthia, c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être un problème d'entretien de digues qui est un petit peu différent. Bon. C'est plus politique, là.
Vous êtes d'accord, Jean Jouzel, avec sa vision ? Là, on a touché un petit peu entre les deux, la météo, le climat.
Ouais.
Est-ce que vous, en tant que climatologue, vous voyez la même chose ? Vous avez la même vision de la périodicité, de l'intensité ?
Oui, généralement, on est toujours d'accord avec Emmanuel. Mais bon, il se fait quand même qu'en venant ici, je lisais le... Il y a un rapport du GIEC qui va sortir justement sur les extrêmes climatiques et sur, disons, un petit peu les mesures à prendre. Et effectivement, quand même, quand on regarde, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel, mais quand on regarde vers le futur, il y a, pour ce qui concerne les grands cyclones tropicaux, il n'y a effectivement pas d'augmentation du nombre prévu, mais il y a un risque d'augmentation de leur intensité. Enfin, ça, c'est clair. Pas au niveau forcément dans nos régions, c'est pas ça, mais...
C'est-à-dire qu'ils seront plus forts.
Oui, il y a ce risque. Voilà. Mais pour moi, une des grandes conséquences...
Ça, c'est toujours à 50 ans ou un peu plus loin ?
Oui, et c'est ça. Et après, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir parce que même, effectivement, les conséquences du réchauffement climatique, les plus importantes, c'est plutôt pour la deuxième partie du 21e siècle. C'est pas pour les générations futures. Hein. Ils sont dans nos cours d'école, les gamins. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas si loin que ça. Mais effectivement, on y reviendra, j'espère. Les mesures à prendre, elles sont à prendre dans les 15 ans qui viennent.
Ah bah parlons-en, justement.
Et puis, il y a un point... Sauf si vous voulez pas. Moi, pour moi, une des conséquences qu'Emmanuel n'a pas évoquées, que c'est pas que j'aime bien l'évoquer, mais qui pour moi est assez dommageable, c'est le problème de l'élévation du niveau de la mer.
Donc, c'est
une autre conséquence qui n'a pas été. Je dis simplement, c'est vrai qu'on
les réfugiés climatiques.
On a beaucoup d'incertitudes, mais par exemple, on peut aller de 20, 40, 60 centimètres d'ici la fin du siècle, peut-être plus. Même certains évoquent jusqu'à 1 mètre d'ici la fin du siècle, et c'est pas rien du tout. Même en France, il faut bien se rendre compte de ça. Et surtout, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que cette élévation du niveau de la mer, elle continuera quoi qu'on fasse après. C'est-à-dire que là, même si on stabilise notre climat d'ici la fin du siècle, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra. Et pour revenir toujours au film d'Al Gore, pour ceux qui l'ont vu, c'est le seul reproche qu'on puisse faire au film d'Al Gore. Al Gore montre que il a raison, hein, il montre effectivement que le niveau de la mer peut atteindre 6 mètres, hein, c'est dans les possibilités. Malheureusement, parce qu'il y a à la fois la dilatation de l'océan et la fonte des glaciers, c'est dans les possibilités, mais ce que ne dit pas Al Gore, et c'est le défaut de son film, c'est qu'il ne dit pas que ça peut être, ça c'est une possibilité, mais plutôt dans 500 à 1000 ans. Hein, c'est pas du tout une possibilité pour le siècle à venir. Mais cette idée.
Ça prendra un peu plus de temps, mais ça se
fera. Oui, je veux dire, c'est possible. En tout cas, c'est pas
une inertie qui s'est lancée.
Il y a une telle inertie que, par exemple, le Groenland. Groenland, il y a 120 000 ans, était probablement la moitié de sa taille. Ça contribuait. Il y a 120 000 ans, le niveau de la mer était 6 mètres plus élevé qu'actuellement, et le climat n'était que 2 à 3 degrés plus chaud, probablement. Donc, c'est dans les possibilités. Donc, pour revenir au film d'Al Gore, l'idée, c'est quand même qu'il ne dit pas du tout que c'est dans
un milliard d'années. 2-3 000 ans
on non, était ça, dans c'est la... À... Non, la précédente période chaude, il y a 120 000 ans.
120 000 ans,
ouais, donc,
voilà. Il n'y avait pas d'homme sur la Terre, là.
Non, il n'y avait pas d'homme, c'était à cause justement de la position de la Terre sur son orbite, mais en tout cas, le niveau de la mer était, lui, de l'ordre de 6 mètres plus élevé qu'actuellement, alors que le climat n'était pas tellement plus chaud qu'actuellement.
Par rapport à ce changement climatique, au-delà des films un peu catastrophistes, également sortis par les Américains sur le jour d'après, où il y a un changement radical en 48 heures, on voit quand même, et le fait que vous ayez eu le prix Nobel de la paix, on voit quand même qu'il y a un lien très direct entre changement, réchauffement ou dérèglement climatique et la stabilité de nos sociétés humaines sur cette planète, qui pour la plupart d'ailleurs sont en bord de mer ou d'océan, donc élévation des températures, sont directement dépendantes de la pluie pour l'irrigation ou des ressources à disposition. Et donc, il y a un lien entre presque survie humaine et limiter absolument ce dérèglement climatique ou la contribution de l'humanité, tout en sachant que les doutes continuent à s'instiller et que si un jour on était vraiment sûr, ça serait déjà trop tard. C'est ce que vous dites, je crois.
Oui, c'est un peu vrai, mais je pense quand même, j'aime bien votre point, parce que c'est vrai qu'on est en gros quand même c'est une question qu'on n'a pas évoquée au début beaucoup, mais le développement de nos civilisations, c'est largement construit à partir de la stabilité du climat depuis plus de 12 000 ans. Et c'est très rare qu'on ait une période chaude aussi longue. En fait, les précédentes périodes chaudes n'étaient pas aussi longues. Et vraiment, c'est la stabilité du climat qui favorise le développement. Ça, c'est très clair. Et la difficulté de ce vers quoi on va si rien n'était fait, c'est la rapidité du changement. Il y a une capacité d'adaptation, bien sûr, hein, mais nos villes qui sont au niveau où elles sont, on ne va pas les changer de place. Et de toute façon, s'il y a on perdra beaucoup de richesses de ces villes qu'on a construites il y a quelques centaines d'années, à échéance aussi de quelques centaines d'années dans le futur. Mais la rapidité du changement est vraiment quelque chose d'essentiel, et donc la stabilité est vraiment facteur de développement, et au contraire, le changement trop rapide. Alors, on a connu évidemment des changements extrêmement rapides qu'on a trouvés dans les glaces polaires pendant la période glaciaire, mais c'est moins vrai depuis 12 000 ans. Le climat est stable et il devrait aussi continuer à être stable s'il n'y avait pas l'activité humaine pendant encore des milliers d'années, tout simplement parce que, en gros, l'orbite terrestre est plutôt ronde. Hein. On est dans une période où on n'irait pas de façon naturelle très rapidement, pas avant 10-15 000 ans, vers la prochaine période glaciaire.
D'accord, donc c'est pas pour tout de suite. J'avais peur de voir des modèles où la température chuterait brusquement. Alors donc, il y a cette faculté d'adaptation. Alors, Emmanuel Bocry nous disait il faudrait réadapter dans les 50 ans nos infrastructures. Rassurez-moi, il n'y a pas que cette solution-là. C'est-à-dire que ça, c'est de l'adaptation.
Non.
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'adapte à un climat qu'on a déréglé, c'est ça ? Est-ce qu'on peut encore, là, faire un peu marche arrière ?
Non.
D'ailleurs, on va être obligé d'y passer.
Ouais, moi
adapter ses maisons, adapter nos villes, se déplacer, les réfugiés climatiques, tout ça, c'est inéluctable.
Non, on va voir après. Non, ce qui est inéluctable, bon, je partage. Ce qui est inéluctable, c'est le réchauffement climatique. On ne va pas. Et ce qui est très dur déjà, c'est de limiter le réchauffement. Bon, même si on arrêtait tout de suite, on aurait un réchauffement climatique à peu près équivalent à celui qu'on a connu. Hein, même si vous arrêtez toutes les voitures, toutes les émissions, admettons que ce soit possible, ce ne l'est pas. Hein. Mais même dans ce cas-là, on a une certaine inertie qui fait qu'en gros, on prendrait un peu moins de 1 degré, on prendrait au cours du 21e siècle ce qu'on a pris au 20e siècle.
C'est le syndrome du Titanic, c'est ça ? C'est cette inertie qui fait que...
Donc ça, c'est sûr. Quand on vous dit que c'est pas le réchauffement climatique est inéluctable, ce qui est très difficile et ce qui est un véritable défi, et c'est important, c'est de le maintenir en dessous de 2 degrés. Alors, l'idée du 2 degrés, c'est qu'en dessous de 2 degrés, on pense que pour l'essentiel, on pourrait s'adapter au réchauffement climatique, au moins dans nos régions, parce qu'il y a des régions où c'est déjà très difficile, c'est beaucoup plus vulnérable, hein, que ce soit dans les régions côtières du Bangladesh ou d'autres régions comme ça, ou même en Afrique, où à 2 degrés de plus, c'est vraiment quelque chose de très important. Bon, admettons qu'on puisse y arriver, mais le défi, il est énorme, parce qu'il faut diminuer nos émissions par 2, voire par 3 d'ici 2050, et en fait, il faut qu'elles aient commencé à redescendre, et c'est ça le problème des 15 ans d'Alice Gore, il avait raison, il faut qu'elles aient commencé à redescendre d'ici 2020. C'est tout près. Les 15 ans d'Al Gore, ils sont tout à fait dans le rapport du GIEC. D'ici 2020, les émissions doivent avoir commencé à redescendre et elles n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'au cours des 10 dernières années. Donc le défi est énorme. Donc pour maintenir en dessous de 2 degrés, c'est ce qu'il faudrait. Donc on est plutôt parti, disons, dans les textes, tout le monde dit que c'est bien 2 degrés, mais dans les propositions qui sont faites par les différents pays, on est plutôt parti vers 3 degrés de réchauffement. Donc oui, on est vraiment, il ne faut pas dire. Donc moi-même, je me suis impliqué, je me suis impliqué à la fois dans le Grenelle de l'environnement, qui est plus orienté vers les aspects de comment on peut faire pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre en France.
Vous avez eu le sentiment d'être entendu ?
Le premier sentiment que j'ai eu, c'est quand même que les propositions du Grenelle sont de très bonne qualité. Je pense que si toutes les propositions initiales du Grenelle avaient été mises en œuvre, ce qui aurait été possible, je crois qu'on était effectivement sur... on n'aurait pas de mal à... On était, disons...
Bien
parti pour mettre la France sur la trajectoire de moins 20%, moins 30% d'ici 2020, hein, ce qui est nécessaire pour les pays développés. Il y a quand même eu au cours des dernières semaines, des derniers mois, le Grenelle 2 quand même se met en... Il y a quand même des mesures qui se mettent en œuvre actuellement. Il faut pas non plus... Il y a plein de mesures qui se mettent en œuvre à travers le Grenelle 2. Mais effectivement, j'ai regretté, par exemple, que la taxe climat-énergie... La
taxe carbone.
Ce qu'on appelle...
Vulgairement la taxe carbone, oui.
Ouais, vulgairement la taxe carbone n'est pas été mise en œuvre. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même mettre en route un cercle vertueux. Et je crois que ça aurait été très bien... Franchement...
Donc là, c'est raté alors.
Il y a d'autres choses qui n'ont pas été prises.
Gardez un côté optimiste. Mais...
Non, mais il y a eu des... Bon, le Grenelle est un bien, certainement. Oui, c'est une prise de conscience, quand même. Mais il aurait fallu le mener au bout complètement. Il faudrait le mener. C'est pas... Bon, il faut continuer à le mettre. Mais à côté de ça, il faut aussi penser à l'adaptation. Et là, disons qu'en France, se met en place un plan d'adaptation au réchauffement climatique. Il y a une concertation. Je m'y suis investi. Donc, je veux dire, c'est pas l'un sans l'autre. La priorité, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ils font déjà penser à l'adaptation. Pour revenir à Emmanuel, quand même, quand vous êtes vigneron, vous devez commencer à vous poser des questions de savoir où vous allez, probablement d'abord changer vos cépages dans les régions, mais bon, il faut déjà y penser.
S'adapter d'une part, ce qui est sans doute en cours d'être fait, mais surtout stopper, freiner radicalement quand on voit effectivement tous les atermoiements du Grenelle qui ont fait qu'on relègue la taxe carbone au calendrier grec, on évite tout un tas de choses.
Ou la taxe sur les essieux poids lourds, tout ça. On peut dire les principaux points qui n'ont pas été, qui n'ont pas pu être mis en œuvre dans le Grenelle initial, c'est vrai.
À l'échelle internationale, malheureusement, oui. Copenhague a été un fiasco, mais enfin pas une réussite. S'est mis d'accord sur une limite à ne pas dépasser, mais personne ne s'est fixé d'objectif et il n'y a aucune contrainte.
C'est exact.
Donc c'est quoi l'avenir ?
L'avenir, donc du point de vue scientifique, moi je suis avant tout chercheur, notre avenir dans notre communauté, on a déjà le cinquième rapport du GIEC va sortir en 2013. Notre espoir, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui se sont faits au cours des années récentes, justement sur ce que vous avez évoqué c'est au départ sur par exemple les permafrost, tout ça, il y a beaucoup de travaux nouveaux là-dessus. Donc on nous en feront la synthèse et on verra en 2013, c'est de faire un rapport qui soit un sans faute, parce que c'est vrai qu'il y a une ou deux petites fautes dans le quatrième rapport du GIEC qui nous ont fait mal, alors de façon tout à fait complètement injuste, parce que ces deux petites erreurs étaient sans conséquence, mais donc c'est de travailler, d'apporter des informations nouvelles, d'affermir nos conclusions, mais c'est pas toujours facile, on peut pas aller au-delà non plus de ce qu'on sait, c'est pas si simple. Voilà l'avenir pour le scientifique, et ensuite l'avenir pour le politique, c'est d'aller vers de vraies décisions. Mais je dis ma crainte parce que vous l'avez évoqué, c'est vrai que ma crainte, c'est que les mesures ne se mettront en route que quand les gens sont vraiment convaincus, chacun sera convaincu dans la rue qu'il y a un problème. Et ça, on risque d'attendre, la décennie prochaine ou 15 à 20 ans probablement d'ici là. Donc, et là, il sera trop tard pour atteindre l'objectif de 2 degrés. Hein. Je veux dire, les gens viendront nous dire pourquoi vous ne nous l'avez pas dit. Alors, on repassera cette émission.
Jacques Chirac nous a dit, en 2002, nous a dit la maison brûle, sur la tribune internationale au sommet de Johannesburg, la maison brûle, on regarde de côté, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenu, on est la première génération à pouvoir empêcher l'irréversible. Nicolas Sarkozy, a réitéré au sommet de Copenhague, et malgré tout, alors si c'est pas les politiques qui peuvent décider, parce que se réfugient derrière leur opinion publique en disant je peux pas prendre une décision qui engage une opinion publique qui n'y est pas favorable, est-ce qu'au niveau des médias, vous, Emmanuel Bocry, vous sentez les médias s'intéresser à changement dans la météo, est-ce que c'est une conséquence, un symptôme de ce changement climatique ou de ce réchauffement climatique qui pourrait faire augmenter un peu la pression de l'opinion publique pour des changements et des prises de décision?
Alors, je ne sais pas trop, mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des médias, il y a eu effectivement une prise de conscience, on en a parlé, malheureusement pas assez. Je dirais que les médias, eux, ils sont intéressés, ils en parlent parce qu'ils savent que les gens écoutent, ils sont intéressés. Si le public est plus intéressé, ils vont arrêter d'en parler. Et il faut en parler. Et moi, je suis très choqué quand je vois que les gens ne réagissent pas au changement climatique. Quand on voit la qualité du travail qu'a fait le GIEC, quand il faut lire les rapports, quand je vois le nombre de personnes qui ne lisent pas les rapports, je leur recommande d'aller lire.
On ne peut pas.
Si.
Non, mais attendez, les médias, peut-être. Oui.
Monsieur Tout le Monde, allez chez...
Vous voyez un petit peu le...
Mais non, c'est une cinquantaine de pages.
C'est scientifique.
C'est résumé, 20 pages, c'est résumé. Il n'y a pas une équation, il n'y a rien à ce sens.
Je vois pas le français moyen aller s'intéresser au rapport du GIEC.
C'est dommage.
Je pense qu'il y a un travail de vulgarisation, que c'est à nous peut-être de le faire, aux médias, de le faire passer, peut-être autrement. Il faudrait peut-être le faire avec un peu plus d'acharnement, mais je suis pas persuadé que d'emblée, le fascicule rapport du GIEC aille passionner les Français.
Je suis très étonné, beaucoup de gens en parlent et peu de personnes l'ont lu dans le public. Et il faut le lire, il est simple à lire, il est très intéressant, on voit les incertitudes, on voit les certitudes. Il y a énormément de réponses et effectivement, comme dit Jean Jouzel, il n'y a pas une équation. C'est un rapport scientifique qui est fait pour Monsieur Tout le Monde. Il suffit simplement de le prendre. Vous allez sur www.ipcc.ch, vous avez en version française, anglaise, etc. Vous le téléchargez, ça fait une vingtaine ou une cinquantaine de pages. Vous le lisez tranquillement un soir et vous pouvez en discuter. Les graphiques sont parlants, ils sont simples.
C'est la même chose que vous remettez aux décideurs de notre pays.
Oui, enfin, il y a différents étages. Ouais. Je ne veux pas trop élaborer sur le rapport du GIEC, mais il y a un gros... Par exemple, il y a trois rapports. D'abord, un rapport scientifique, un rapport sur les impacts, sur les conséquences, et un rapport plus sur les solutions. Le rapport scientifique, par exemple, fait 1000 pages. Hein. On a une quinzaine de chapitres. De ces 1000 pages, nous faisons une version résumée qui fait une cinquantaine de pages. Et là, un résumé pour décideurs qui est vraiment, justement, avec un langage le plus simple possible, qui fait une vingtaine de pages. Donc, ces 20 pages, vous pouvez y accéder en français et elles sont tout à fait accessibles.
Je tâcherai de le mettre sur le
site. Oui, Frédéric, c'est promis.
Vous devez partir dans 3 minutes. Je vais vous faire réagir à Claude Allègre,
oui.
votre copain. Juste pour aborder ensuite, très rapidement, avant que vous ne partiez, le rôle de l'économie dans le réchauffement climatique.
Je crois avoir été le premier à donner un interview l'été dernier contre la taxe carbone purement française, parce qu'elle ne sert à rien sur le plan climatique, si tant est que ça soit la priorité, et elle pénalise les entreprises françaises. Et dans le livre que vous mentionnez, j'ai quasiment dit ce qui a été la décision finale, c'est-à-dire qu'une taxe carbone au niveau de l'Europe et en particulier aux frontières était quelque chose de tout à fait acceptable. À l'échelon mondial, ça serait encore mieux, car derrière tout ça, comme vous le savez, moi je ne suis pas pour le dégagement de CO2, parce que ça acidifie l'océan d'une part, puis d'autre part, parce que je crois qu'il faut conserver l'énergie pour plus tard, pour nos enfants, et donc on gaspille énormément l'énergie.
Alors voilà, donc juste une réaction à chaud, c'était Claude Allègre sur France Inter.
Claude Allègre a des fois raison, il a raison.
Il n'a pas forcément faux, oui, effectivement.
Non, dans ce cas-là, je partage son idée, mais bon, on va y venir après. Je partage l'idée qu'une taxe carbone, si on peut l'appeler taxe carbone, serait plus efficace au niveau européen, y compris au niveau mondial. C'est bien l'objectif, il faut vraiment trouver des outils, soit des taxes, soit des incitations, soit justement des quotas pour qu'on mette en marche ces limitations des gaz à effet de serre. Là où je ne suis pas Claude Allègre, c'est que j'étais favorable à la taxe carbone au niveau français. Il faut quand même avoir bien l'idée qu'elle était construite de façon, c'était pas une taxe, d'abord parce que l'argent était essentiellement rendu aux Français. Les gens qui pensent quand même que ça aurait ruiné leur vie, il faut savoir que si vous faites 20 000 km, il faut quand même avoir les chiffres en tête, 20 000 km, disons, pour votre travail chaque année, ce que beaucoup de Français peuvent faire, la taxe avec une voiture qui consomme 6 litres au 100, vous aurez donné 50 euros par, vous aurez coûté 50 euros par an, alors que beaucoup de ménages auraient reçu sur leur première feuille d'impôt actuellement, ils seraient en train de recevoir sur le premier tiers pour les familles 100 ou 140 euros. Il faut quand même avoir les chiffres en tête, c'est-à-dire que l'aspect social de ces taxes carbone, on avait bien l'utilité. Il se fait que j'ai participé à la commission, hein, donc je me suis beaucoup investi.
Donc il y a eu une fausse polémique.
Non, ça a été mal présenté, non, c'est vrai, mais les, disons là aussi, les, disons, les détracteurs de la taxe carbone ont pris le dessus dans l'aspect médiatique.
Il y a quand même, juste pour terminer, un de ses premiers arguments, c'est de dire la taxe carbone, c'est pas bon pour les entreprises françaises.
Mais
donc là, vous parliez du particulier, mais il y a aussi les entreprises. Et non, donc mais... son centre, c'est un petit peu l'économie, là.
Oui, mais attendez. Alors là, je veux bien penser aux entreprises françaises, mais je pense que les entreprises françaises ne se tournent pas vers l'avenir. Eh bien, elles vont perdre la compétition. Du point de vue économique, sans parler du point de vue écologique, ce réchauffement est inéluctable. Une diminution aller vers une société sobre en carbone est inéluctable. Et donc ce sont les économies qui s'y mettront les premières qui gagneront, hein, économiquement. On voit bien que c'est bien gentil d'avoir dit les éoliennes ça vaut pas le coup, les solaires ça fait pas le coup, du coup on met des éoliennes, ce qui à mon avis est bien, mais ça c'est pas le débat, mais elles viennent du Danemark ou d'autres pays, les panneaux solaires viennent de Chine. Pourquoi? Alors parce que tout simplement notre économie n'a pas su anticiper. Donc continuer comme ça, d'accord, c'est pas ça le problème de l'économie française, c'est justement de se tourner vers une société sobre en carbone. Si, et je le dis ça à chaque fois que bon, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas du tout, disons, faire le dos rond en disant on garde nos privilèges ou on essaye. Non, je crois pas. Je crois que le dynamisme économique, il passe aussi par une vraie vision. Et cette vraie vision doit intégrer le problème du réchauffement climatique et non pas le contraire.
Un mot que vous voulez donner, juste une note d'optimisme peut-être. Quel message faites-vous passer aux Français?
D'abord, il y a une chose dont on a discuté ici, c'est que j'aime bien dire que... Moi, j'aime bien les médias français, c'est-à-dire ceux qui se battent pour transmettre les messages. Je tiens à vous le dire, on est ici, et donc il y a beaucoup de gens qui le font, et je pense qu'il faut continuer. Il ne faut pas du tout... Il y a des moments où on est moins écouté, des moments où on est plus écouté, mais ce n'est pas une raison pour... disons, on ne doit pas non plus être catastrophiste, mais je crois qu'il faut rester présent au niveau des médias. C'est à travers ça, tout le monde... Je pense qu'on peut adhérer justement à une véritable politique, aller vers une société sobre en carbone, que si on ne comprend... Si on ne comprend pas les problèmes, eh bien pourquoi il y a ce problème, eh bien on n'adhérera jamais. C'est pas le Grenelle de l'environnement, c'est pas la législation. Il faut que les gens comprennent pourquoi on essaye d'entraîner le développement vers une société sobre en carbone. Voilà ce que je souhaite dire, et c'est ce que je vais aller dire. Je suis navré de devoir partir quelques minutes en avance. En fait, je vais aussi parler de changement climatique dans un lycée du 18e arrondissement. Voilà,
à des élèves,
parce que je pense que c'est important aussi de de transmettre. Voilà.
Très bien. Alors, bon courage. Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'avoir été présent sur le plateau de Fréquence Terre. À très bientôt. Bonne route. Alors, vous enchaînez les conférences les unes après les autres. Et à très bientôt. Merci d'être venu. On va continuer avec Emmanuel Bocry quand même. Emmanuel Bocry, 28 degrés aujourd'hui à Paris. C'était le poisson d'avril de Météo France.
Non. On a une période chaude là. Parce qu'on a un anticyclone qui nous remonte des masses d'air chaudes qui viennent du Moyen-Orient. De l'Afrique du Nord.
Vous êtes venu avec une carte de la météo ?
Oui.
Vous nous faites la météo du jour ?
Vous voulez la météo pour cet après-midi ?
Ah bah oui.
Je vais remplacer mon collègue Joël Collado qui est sur Inter. Donc c'est du beau temps sur l'ensemble de la France. Néanmoins, un peu plus de nuages sur la partie nord-est, Champagne, Lorraine, Ardennes. Attention, il y a des vents de 50-60 km/h de sud-est sur la côte ouest, Pays de Loire, Sud-Bretagne. Pour demain, samedi, fait beau presque partout, avec un petit peu de brouillard localement dans la région nord de la vallée du Rhône, un petit peu sur Alsace-Lorraine. Vous avez du beau temps avec un ciel voilé, donc c'est un ciel un peu laiteux blanc qui arrive par l'ouest, la pointe Bretagne, elle va avoir un peu de nuages. Et samedi, on a un passage de pluie qui traverse la France d'ouest en est. C'est du tout frais, hein.
Je vois que c'est pour ça que je voulais qu'on en profite. Mais vous n'avez pas donné les températures?
Ah,
Les températures. Parce que moi, j'ai entendu des chiffres. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est le poisson d'avril.
Non, c'est pas le poisson d'avril. Pour demain.
Aujourd'hui.
Pour aujourd'hui. Bon, sur région parisienne, c'est du 20 degrés. Orléans, 21. Vous avez du 25 à Auch, du 24 à Montauban. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bordeaux 25 degrés, Agen 25 degrés. Brest 19. Non, c'est très doux.
C'est clément. Donc demain, du soleil.
Demain, il y a du soleil. Les températures restent encore chaudes, ouais, sur l'ensemble du pays. Bon, ouais, et après, ça va redescendre un petit peu. On va revenir à des températures de saison.
Il ne faut pas que ça vous empêche de venir au Salon Planète Durable, porte de Versailles de Paris. Une dernière question, peut-être, Cyril Souche.
Souvent, les présentateurs météo, et de plus en plus maintenant, resituent par rapport aux normales saisonnières. Est-ce que ça veut dire que ces températures normales saisonnières vont plus vouloir dire grand-chose, puisqu'on se réfère à une normale qui est en train de changer, si j'ai bien compris.
Alors, tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de normale saisonnière, c'est des valeurs moyennes qui sont basées sur 30 ans de données. On prend 3 décennies et on fait des moyennes. Donc, alors c'est normal, elles vont changer, mais quand elles vont changer, ça va être des pouillèmes, donc vous vous en rendrez pas bien compte. Si on change d'un dixième de degré, moi je m'en rends pas compte, vous vous en rendrez pas compte. Donc on peut considérer que les normales dont on parle aujourd'hui, elles sont valables encore pendant au moins 20, 30, 40, 50 ans. Après, alors, ça va changer un petit peu.
Et alors on a vu apparaître aussi ce qui existe, je crois, depuis un certain temps aux États-Unis, c'est-à-dire la différence entre température réelle et température perçue.
Alors oui, ce qu'on appelle la température ressentie. C'est une température, quand nous mesurons nos températures, c'est sous abri, c'est-à-dire qu'on protège du soleil, on protège du vent, c'est dans un abri ventilé, etc. Et nos prévisions de température sont sur cette base-là. Parce que si vous êtes dans un lieu, si par exemple il fait 20 degrés sous abri et que vous êtes en plein soleil et que vous êtes entouré de pierres, vous n'allez pas avoir 20 degrés sur votre corps, vous allez sentir beaucoup plus. En hiver, quand il y a du vent, la sensation de froid va être accentuée. Alors, il faut savoir, au départ, ce sont nos collègues canadiens qui ont mis ça au point, parce qu'ils ont des blizzards très très intenses, et ils ont eu des personnes qui mouraient de froid, avec des températures de moins 4, moins 5. Vous aviez avec des vents forts, vous pouvez avoir des sensations de température de l'ordre de moins 40, moins 50. Donc on peut en mourir très très vite. Et cette température ressentie, il est important de la fournir, surtout en hiver. On pense surtout aux personnes qui sont les sans-abri, parce que eux, ils peuvent faire moins 2, moins 3, et on se dit, bon, avec un bon pull, on peut tenir le coup. Mais si vous avez du vent en plus, la sensation de froid est beaucoup plus intense, et on peut avoir des décès à cause de ça. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place pour alerter les gens, pour leur dire, attention, là, il y a un risque, il y a un danger.
Le plan grand froid et plan canicule, c'est quoi les...
Alors, les plans grand froid et canicule sont basés sur ces températures ressenties. On les prévoit sur l'ensemble de la France. Ça varie. Alors, quand on prend par exemple la canicule, on a une température minimale de nuit et de jour. Alors, pourquoi ? Parce que grossièrement, quand on est en journée, on reçoit de l'énergie, on a chaud, on a du mal à supporter la chaleur. Et la nuit, s'il fait suffisamment frais, votre corps, entre guillemets, récupère. S'il ne fait pas suffisamment frais, bah, vous accumulez de la fatigue et vous résistez beaucoup moins bien à la canicule. Donc, c'est des températures importantes. Ces températures sont variables en fonction du lieu où on est. Je ne veux pas être méchant, mais un Marseillais résistera mieux à la chaleur qu'un Lillois. Bon, sauf s'il se déplace, mais globalement, quelqu'un qui est habitué à la chaleur résiste mieux à la chaleur. Alors, quelqu'un qui ne l'est pas va subir la même température, va faire plus de dégâts sur lui. Et pour le plan grand froid, c'est le même principe, mais cette fois-ci avec des températures négatives.
J'ai une dernière question. Il nous reste 3 minutes avant de clore ce plateau. Comment se prépare la météo ? C'est-à-dire avant que les télévisions, pour ceux qui regardent la télé, etc., il y a une carte qui est affichée. Comment on arrive à cette carte ? Alors, quel est le début du processus ? Il y a des processus intermédiaires. Et alors, après, qu'est-ce qui valide cette carte ?
Eh ben, je vous propose de faire le petit scénario de ce matin. 0 heure, temps universel. Les météos qui travaillent, on travaille jour et nuit.
Alors
les météos,
ce sont les ingénieurs, c'est ça ?
Ce sont les ingénieurs de Météo France et d'autres météorologies. On couvre toute la planète. On travaille 24 heures sur 24. Donc on se relaye toutes les 12 heures. On va à 0 heure, temps universel. Il y a une observation qui est faite sur toute la planète. Cette information, en quelques minutes, est transmise à tous les services météorologiques. On alimente nos prévisionnistes avec ça pour pouvoir voir le temps qu'il fait. On a dans le même temps, on alimente nos modèles numériques. Donc c'est une représentation mathématique de l'atmosphère. Je vous parlais de ces équations des inconnues, c'est ça. Mm-hmm. Le système va commencer à tourner. Il faut compter à peu près une heure pour avoir une prévision à 24 heures. Alors quand même, pour que les gens se rendent compte, une heure, en une seconde, notre calculateur fait 30 000 milliards d'opérations.
Un des processeurs les plus puissants d'Europe.
Voilà. Tous les grandes météorologies ont ça, et tous les 5 ans, on les renouvelle, et ils ne tournent pas assez vite. Il faudrait qu'ils tournent encore plus vite.
Donc, on sort un modèle, là.
Alors, au bout d'une heure, on reçoit des sorties de modèles. En réalité, il y en a beaucoup plus qui arrivent au fur et à mesure. Vous avez des champs de température, de pression, etc. Donc là, le prévisionniste va avoir deux rôles. Le premier, ça a été de choisir le modèle, parce qu'on sait que tel modèle est meilleur dans telle situation, etc. Il a des défauts. Par exemple, un modèle américain marchera très bien sur l'Amérique, moins bien sur l'Afrique. Un modèle européen marchera mieux sur l'Europe, ce qui est logique. Mais on les compare en permanence. On fait un choix. Et après, on va traduire ça en langage clair pour l'usager.
Qui fait le choix ?
Alors, le choix est fait à Météo France par une équipe d'une dizaine de prévisionnistes, au minimum. Donc, il y a les prévisionnistes nationaux, 7 régions météorologiques. On discute entre nous pendant une heure pour se mettre d'accord sur le scénario, le type de modèle qu'on prend. Et à partir de là, chaque prévisionniste va faire une déclinaison dans sa région. Donc, on va traduire en langage clair la prévision. Donc si je vous dis demain il y a une foliation,
il y a un chef qui tranche.
Non, c'est un travail collège. Collaboratif.
D'accord.
Il y a un chef qui est toujours, parce qu'il y a toujours un responsable, mais c'est un travail collaboratif. Et donc si je vous dis qu'il y a une foliation de tropopause à deux PU, vous me regardez avec des grands yeux.
Oui,
vous
me parlez charabia. Je vous tourne le dos, Emmanuel Bocquet.
On va vous dire, eh ben il va faire beau demain ou il va faire mauvais, il va tomber de la pluie, etc. Et on va parler, on va s'intéresser à ce qui vous concerne, c'est-à-dire qu'un pilote, il veut pas savoir la hauteur des vagues, il veut savoir s'il va avoir du vent en altitude. Et on va vous parler selon un langage qui est clair. Vous, on va vous parler du vent en kilomètre heure. Pour les marins et les pilotes, on va parler en nœuds.
D'accord, ben on va s'arrêter ici. Merci beaucoup Emmanuel Bocry. Vous êtes responsable des médias de Météo France. Sur ce plateau, nous accompagnait tout à l'heure, il est parti il y a 10 minutes, Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel de la paix avec Al Gore, responsable du GIEC aussi. Fréquence Terre en direct du Parc des Expositions à la Porte de Versailles de Paris. Ça continue.